100 ans universel.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient, comme tous les jours, RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité, et ce matin, nous lancerons le débat sur la Coupe d'Afrique des Nations, où se tiendra la CAN 2015, nous sommes à 3 mois du coup d'envoi de la compétition, et pour l'instant, eh bien, c'est encore l'incertitude. Depuis 10 jours, le Maroc, pays organisateur, demande un report du tournoi en raison de la propagation de l'épidémie Ebola. Pour l'instant, la Confédération africaine de football a indiqué qu'aucun report n'était à l'ordre du jour. D'ailleurs, la CAF cherche un plan B. Plusieurs pays ont été approchés la semaine dernière. C'est le cas du Ghana, de l'Afrique du Sud. Alors, quelle décision doit prendre la CAF? Doit-elle maintenir le tournoi au Maroc et aux dates prévues, ou doit-elle désigner un autre pays organisateur? Ou tout simplement, pourquoi pas, il faut imaginer ce scénario, annuler la compétition, ce qui serait d'ailleurs une première dans l'histoire de la CAN. Vous nous rejoignez. Vous êtes nombreux sur la page Facebook de l'émission, 400 messages postés, le débat est assez houleux, assez tendu, mais comme à chaque fois, dès qu'on parle football et dès qu'il y a des enjeux sportifs, vous nous rejoignez, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70, si vous nous appelez de France. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité, toutes vos questions nous intéressent, nous sommes là pour vous permettre de mieux comprendre, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons à l'antenne. Bonjour Paolo.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Bangui.
Oui.
En Centrafrique, okay. Et vous avez des questions concernant Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire.
Oui, tout à fait. Donc, le 22 octobre, Simone Gbagbo va être jugée en Côte d'Ivoire. Et ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été transférée à la CPI pour être jugée comme son mari Laurent Gbagbo? Voilà.
Alors, bonne question, effectivement. C'est vrai que les autorités ivoiriennes refusent de transférer devant la CPI Simone Gbagbo, poursuivie comme son mari pour crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales de 2010-2011. Avec nous, en direct d'Abidjan, Frédéric Gara. Bonjour Frédéric.
Bonjour Juan, bonjour Paolo.
Vous êtes le correspondant d'RFI en Côte d'Ivoire. Le procès de Simone Gbagbo devrait théoriquement commencer dans 48 heures. Elle sera jugée aux côtés de 83 personnalités du FPI. Pourquoi Abidjan refuse que l'ex-première dame soit jugée à La Haye devant la Cour pénale internationale?
Bien, tout d'abord, Juan, c'est une question de souveraineté nationale pour un pays qui se reconstruit et qui a besoin de se prouver que dans tous les appareils, dans toutes les fonctions régaliennes de l'État, il y a un retour à la normale après des années de crise et de conflits. Cela paraît évident. C'est pourquoi les autorités ivoiriennes, depuis plusieurs mois, se livrent à une sorte de course contre la montre avec la Cour pénale internationale pour instruire le dossier retenu contre l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire. Si à l'époque de l'arrestation, puis du transfert de Laurent Gbagbo à La Haye, l'appareil judiciaire du pays n'était sans doute pas à même de mener à bien une enquête et a fortiori un procès pour crime contre l'humanité. Abidjan estime aujourd'hui qu'il n'en est pas de même pour Simone Gbagbo et les quelques 80 autres individus qui sont appelés à comparaître avec elle aux assises. Car il faut rappeler, Juan, que ce mercredi, ce n'est pas le seul procès de Simone Gbagbo qui doit se tenir, mais celui de dizaines d'autres membres de l'ancien pouvoir ivoirien, parmi lesquels on retrouve des leaders de l'opposition actuelle comme Daniel Boni-Clavry ou Pascal Affine-Gassan, le dernier Premier ministre de Laurent Gbagbo, Gilbert Akenga, le chef de la garde républicaine, le général Bruno Dogboblé, ou encore Abdoudraman Sangaré, qui est le compagnon de route politique depuis très longtemps du couple Gbagbo. D'ailleurs, le procès qui s'ouvre cette semaine ne porte pas sur les chefs d'inculpation retenus par la CPI contre Simone Gbagbo en tant que co-auteur de crimes contre l'humanité, mais c'est pour atteinte à la sûreté de l'État qu'elle sera entendue, inculpation qui recouvre des fautes aussi différentes que la corruption de fonctionnaires, l'organisation en bande armée, ou bien des crimes économiques.
Oui, les motifs pour lesquels la Cour pénale internationale veut faire comparaître Simone Gbagbo à La Haye sont d'une autre teneur, hein, puisque la CPI l'accuse de meurtre, viol et violence sexuelle, actes de persécution et actes inhumains.
Oui, ce sont les chefs d'inculpation sur lesquels travaille également la justice ivoirienne. Il y a à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire deux autres chambres qui enquêtent sur d'autres chefs d'inculpation, dont ceux que vous venez de mentionner. Mais à l'heure actuelle, ces instructions ne sont pas bouclées. C'est apparemment sur ce thème que la justice ivoirienne, depuis quelques semaines, semble mettre les bouchées doubles, si je peux me permettre, pour donner des gages d'efficacité, des preuves tangibles en matière d'enquête et d'instruction du dossier à la CPI. La CPI qui réclame un transfert de Simone Gbagbo à la Haye. Et pour le moment, qui temporise en faveur de la justice ivoirienne. Début septembre, le doyen des juges d'instruction s'est rendu à Odienné, là où est détenue Simone Gbagbo, pour mener des interrogatoires avec celle que la CPI considère comme étant, avec Laurent Gbagbo, à l'origine d'un plan qui a conduit au crime de la crise post-électorale, en apportant, je cite, une contribution coordonnée à la réalisation de ce plan et donc de ces crimes. Si le dossier, une fois constitué, répond aux exigences de la Cour pénale internationale, il se pourrait alors, peut-être, que Simone Gbagbo soit jugée à Abidjan pour ses crimes de sang.
À suivre donc. Reste avec nous, Frédéric Gara. Encore d'autres questions concernant l'ex-première dame ivoirienne, Saturnin. Bonjour.
Oui, bonjour, Juan. Bonjour, merci.
Vous nous appelez de Porto Novo, au Bénin. Nous vous écoutons.
Oui, par rapport au fait de Mme Simone Gbagbo, j'aimerais savoir si la Côte d'Ivoire a les moyens de juger Mme Simone Gbagbo, qui est accusée de crimes contre l'humanité.
Alors, bonne question, et c'est la question que beaucoup se posent, Frédéric Gara.
Oui, beaucoup s'interrogent à ce sujet, même si les choses s'améliorent. L'appareil judiciaire ivoirien a été vraiment profondément affecté par des années de crise et de conflits. À titre d'exemple, pour reprendre cette affaire des procès-verbaux produits par la justice ivoirienne à la CPI, ceux-ci auraient dû être communiqués fin août et finalement ne le seront qu'au début de ce mois d'octobre. Si la teneur même des interrogatoires et leur qualité, des interrogatoires, on n'a pas d'informations, mais selon certaines sources, les procès-verbaux ne semblent pas avoir complètement convaincu le bureau du procureur à La Haye. Cependant, selon l'un des avocats de Simone Gbagbo, qui a assisté lui aussi aux interrogatoires d'Odienné, si sur la forme il y a eu quelques passes d'armes entre le juge d'instruction et l'avocat, sur le fond, l'interrogatoire était satisfaisant pour la défense, ce qui ne veut pas dire que plus tard, si le procès pour crime de sang a lieu à Abidjan, la défense ne se servira pas de toutes ses armes, pour y compris les vices de forme, dans la procédure pour défendre sa cliente.
Oui, des vices de forme apparemment, Frédéric Gara, que la défense de Simone Gbagbo compte en faire ses choux gras.
Oui, c'est là où on peut être un peu sceptique ou perplexe quant à l'état de l'appareil judiciaire ivoirien concernant le procès à venir pour atteinte à la sûreté de l'État. Un autre avocat des défenses nous expliquait il y a peu que, par exemple, en ce qui concerne la désignation des jurés, la liste, les désignants pour 3 ans, doit faire l'objet, au regard d'un article de procédure du Code pénal, d'une publication au Journal officiel. Or, selon cet avocat, ce n'est toujours pas le cas à l'heure où nous parlons, ce qui évidemment donne des motifs et des arguments à la défense pour retarder, contester la tenue d'un procès qui promet déjà, par ailleurs, d'être très long. Dans le même ordre d'idée, à propos de l'organisation du procès aux assises, à 48 heures de celui-ci, mercredi, les démarches d'identification légale, c'est-à-dire, pour faire simple, vérifier que la personne à comparaître est bien la bonne personne au regard de son passeport ou de ses cartes d'identité, ces démarches ne sont toujours pas terminées auprès d'une petite dizaine d'accusés. Enfin, Rouen, on ne sait pas non plus si les accusés devront comparaître un à un ou bien par groupe d'infraction, à quelle date cette semaine ou bien la semaine prochaine, ils comparaîtront. Et quand on interroge la chancellerie sur tous ces sujets précis, on sent un certain flottement.
Ouais. La Côte d'Ivoire sera-t-elle prête pour juger Simone Gbagbo et 83 personnes du FPI cette semaine? On en parlera demain, ce sera d'ailleurs notre débat du jour. Allez, on vous garde encore quelques instants, Frédéric Gara. Une dernière question. Roland, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous nous appelez de Côte d'Ivoire, vous êtes à Abidjan et nous vous écoutons.
Oui. Il voulait savoir si Laurent Gbagbo pourra-t-il assister aux funérailles de sa mère et que prévoit la réglementation de la CPI dans ce genre de situation.
Allez, Frédéric Gara, Laurent Gbagbo pourra-t-il bénéficier d'une liberté provisoire pour assister aux funérailles de sa mère?
C'est difficile à dire, mais il y a déjà eu, on le sait, on en a parlé à l'antenne de RFI, un précédent avec le Congolais Jean-Pierre Bemba qui en juillet 2009 et en janvier 2011 avait été autorisé par la CPI à se rendre aux obsèques de son père, puis à celle de sa belle-mère en Belgique. Une courte libération lui avait été accordée dans le cadre de circonstances exceptionnelles à l'époque. En ce qui concerne l'ex-président ivoirien, une demande similaire à celle de Bemba doit être faite par la défense de Laurent Gbagbo auprès de la CPI. Nous avons cherché à joindre les proches proches de la famille de Laurent Gbagbo ainsi que l'un de ses avocats présent en Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, on est très discret sur la position que va adopter Laurent Gbagbo sur ce sujet très délicat, on s'en doute. Un proche nous a toutefois confié que, quand bien même l'ex-chef de l'État ivoirien a introduit une demande d'autorisation d'assister aux obsèques de sa mère, Marguerite Gado, eh bien, les chances d'obtenir un accord de la CPI sont faibles. La grande différence, souligne certains, c'est que Jean-Pierre Bemba avait pu aller en Belgique voisine des Pays-Bas et non pas en RDC. Là, le fait de revenir en Côte d'Ivoire, qui plus est au moment même où s'ouvre le procès de son épouse, font que les circonstances ne sont absolument pas comparables et ne plaident pas vraiment en faveur d'une autorisation de la CPI.
Ouais, mais c'est vrai que c'est un scénario assez incroyable, hein, Frédéric Garat, quand on y pense. On a Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo appelés à comparaître quasiment au même moment. Le décès de la mère de l'ancien président, tout ça se télescope.
On assiste à une conjonction d'événements, un télescopage, comme vous dites, du calendrier judiciaire et familial avec ce procès et ses obsèques. C'est un scénario assez étonnant qui pourrait devenir complexe à gérer pour les autorités ivoiriennes. Pour en revenir au procès pour atteinte à la sûreté de l'État de mercredi, Simone Gbagbo, Michel Gbagbo sont cités à comparaître, tout comme Abdourahmane Sangaré, qui est l'un des proches de la famille, je le disais, mais qui est aussi chargé d'organiser les obsèques. Tout cela ne va pas être forcément très simple à gérer pour la chancellerie et pour le gouvernement ivoirien, quand on connaît l'importance que revêt la période de deuil en Afrique et général et en Côte d'Ivoire en particulier.
Merci beaucoup Frédéric Garat d'avoir été en direct avec nous. On aura certainement l'occasion de vous retrouver dans les prochains jours avec les questions des auditeurs concernant ce procès qui doit, rappelons-le, théoriquement commencer mercredi. 33 9 693 693 70, la ligne de Francis à Kisangani. Ah, ça y est, on me dit que c'est bon, elle venait de couper. Mais heureusement que les dieux des télécoms sont avec nous, bien souvent. Bonjour Francis.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
On est ravis de vous entendre, ce n'était pas gagné d'avance. Vous êtes à Kisangani en République démocratique du Congo. Vous avez des questions concernant les prix Nobel?
Effectivement, Juan Gomez, j'ai attendu sur les gens de la RFI que les différents prix Nobel 2014 étaient en train d'être remis. Et pour cela, je me pose un certain nombre de questions. Pourquoi les mathématiques ne sont-elles pas concernées par les prix?
Ah, pourquoi n'y a-t-il pas de prix Nobel de mathématiques? C'est une bonne question. En tout cas, pour votre information, Francis, la saison des Nobel est terminée. Tous les prix ont été remis, Nobel de littérature, de médecine, de physique et chimie, Nobel de la paix, évidemment, et Nobel de l'économie, attribué à un Français, d'ailleurs, hein, comme celui de la littérature. Josepha Laroche, bonjour.
Bonjour, merci Juan Gomez, bonjour aux auditeurs, merci bonjour à Francis.
Merci d'être avec nous, Josepha Laroche, vous étiez déjà la semaine dernière dans cette émission. Il nous restait encore quelques questions sur les prix Nobel. On vous a donc rappelé, vous êtes professeur de sciences politiques à la Sorbonne, vous avez écrit un ouvrage, « Les prix Nobel, sociologie d'une élite transnationale », publié aux éditions Libère. Et effectivement, la question de Francis est pertinente, pourquoi n'existe-t-il pas de prix Nobel de mathématiques?
Oui, en fait, il faut revenir au testament du 27 novembre 1895 qui a été établi par Alfred Nobel à Paris, et dans ce document essentiel, il précise les prix qu'il souhaite voir créer: littérature, médecine, physique, chimie, paix, et puis ensuite, comme vous savez, en 69 la Banque de Suède créera le prix d'économie en son hommage, mais il a donc exclu les mathématiques. Pourquoi? Parce qu'à ses yeux, elles ne permettaient pas d'application concrète qui serait rapidement profitable à l'humanité et qui lui permettrait d'améliorer son bien-être. Il ne faut jamais oublier que Alfred Nobel n'était pas seulement un industriel, c'était d'abord et avant tout un savant, un chercheur en chimie. Il a lui-même déposé plus de 300 brevets et il était toujours très soucieux que les recherches et les découvertes soient immédiatement ou très rapidement applicables pour améliorer le bien-être des sociétés. Et il pensait, ça peut être contesté naturellement, il avait cet a priori que les mathématiques étaient une discipline beaucoup trop abstraite qui ne permettrait pas d'améliorer le sort des populations.
Ouais, c'est vrai qu'Alfred Nobel n'aimait pas vraiment les mathématiques. Vous aviez une autre question, Francis? Ah, il n'est plus là, la ligne a coupé, décidément, mais en tout cas, j'ai sa question sous les yeux. Combien gagne un lauréat du prix Nobel et d'où vient cet argent?
Alors il faut préciser que les prix sont dotés d'environ 900 000 euros net d'impôts, mais ce sont pas les lauréats, ce sont les prix. C'est autrement dit, s'il y a des co-lauréats, ils vont se partager ce montant de 900 000 euros. C'est d'ailleurs le cas cette année, puisque nous avons deux lauréats pour le prix de la paix, deux lauréats pour le prix de physique, trois lauréats en chimie et trois en médecine. Il n'y a que Patrick Modiano et également le lauréat Jean Tirole pour l'économie qui vont avoir ces 900 000 euros à eux seuls. Alors, d'où vient ce... J'ai dit environ, parce que ça dépend du rendement du capital qui est placé et géré par la Fondation. Alors, d'où vient cet argent? Eh bien, il vient tout simplement de la fortune personnelle d'Alfred Nobel, qui était estimée à son époque à 31 millions de couronnes suédoises, autrement dit, équivalent à 1500 millions d'euros d'aujourd'hui. Et... pour doter son système de prix, il a purement et simplement déshérité sa famille, qui après sa mort, comme vous pouvez l'imaginer, a intenté un procès, au terme duquel elle a obtenu un peu plus d'un million de couronnes suédoises, mais en contrepartie, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, elle a reconnu la validité du testament et a renoncé à tout jamais, pour les générations à venir, à toute prétention financière. Et ce capital a été géré ensuite par la Fondation, il est aujourd'hui de 350 000 millions d'euros et la gestion se ventile à peu près de la sorte. 50% du capital est placé en actions, 20% en obligations et les 30% restants vont vers des fonds alternatifs et des biens immobiliers. Et il faut peut-être mentionner aussi qu'avec la grave crise financière qui a débuté en 2008, le capital Nobel n'a pas connu de rendement élevé. Et en 2012, l'institution a décidé de réduire de 20% le montant des prix.
D'accord. Eh ben écoutez, merci beaucoup Josepha Laroche pour toutes ces précisions. On remercie évidemment Francis, fidèle auditeur des RFI à Kisangani. Il nous reste encore 4 minutes. Une dernière question. Nous accueillons Nourdine. Bonjour Nourdine.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Paris.
Les auditeurs de RFI.
On vous écoute.
Oui, donc en effet, d'après l'Organisation internationale des migrations, 3000 personnes sont mortes en voulant traverser clandestinement la Méditerranée depuis janvier 2014. Comment ils ont obtenu ces chiffres?
Ah, comment peut-on obtenir un tel chiffre? Bonne question, et qui de mieux placé que le porte-parole de l'Office international des migrations pour vous répondre? Bonjour Léonard Doyle.
Oui, bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes en Suisse, hein, où se trouve le siège de l'OIM. Plus de 3000 migrants ont trouvé la mort depuis le début de l'année en tentant de rallier l'Europe clandestinement. Comment parvenez-vous à obtenir de telles statistiques?
On a obtenu les statistiques à travers les sources publiques, c'est-à-dire les journaux, les actualités. C'est un projet complètement transparent où on trouve les chiffres, on fait une comparaison mondiale, et pour l'Europe, c'est déjà incroyablement 3000 personnes depuis le début de l'année.
Oui. Bon, enfin, la majorité des migrants sont généralement, enfin, meurent par noyade, ils sont asphyxiés, ils meurent de faim, meurent de froid. De là à obtenir un tel chiffre aussi précis, puisque vous parlez de 3072 morts, on peut quand même s'interroger.
Mais ces morts, la plupart en Europe, c'est aux mers. C'est les gens qui essaient de traverser le Méditerranée et qui sont soit tués par les trafiquants, bien qui dans les bateaux qui vont...
Allô? Alors, on a des problèmes de téléphone avec la Suisse. Il y a des petites interruptions. Vous êtes peut-être sur un téléphone portable, Léonard Doyle. On va essayer de régler ça dans un instant. Nourdine, vous aviez d'autres questions?
Parce que là, il a parlé au niveau des passeurs. Apparemment, ces personnes qui sont mortes et ceux qui sont aussi naufragés, ils sont passés par des réseaux. Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour les arrêter, ces réseaux?
Ah, comment lutter contre ces réseaux, Léonard Doyle?
Je crois que ça, c'est la question la plus importante. Soit que c'est à travers les forces de l'ordre de l'Europe qui essaient de mettre la main sur les trafiquants sur haute mer, ou bien soit c'est dans le pays où d'où les gens viennent, c'est-à-dire en Égypte, en Libye, n'importe où. Même en Palestine, où ils ont trouvé le contact à travers les médias sociaux avec les smugglers, si vous voulez. Mm-hmm. Alors, il faut un effort concentré contre ces criminels internationaux.
D'accord. Leonard Doyle, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous quelques instants. Je sais que votre emploi du temps était chargé. Nourdine, merci d'avoir appelé. D'autres questions à la rédaction évidemment demain. Et d'ici là, n'hésitez pas. Le standard reste ouvert, donc vous nous appelez tout au long de la journée. 33 9 693 693 70. À suivre le point complet sur l'actualité dans 10 minutes. Notre débat du jour. Faut-il reporter la Coupe d'Afrique des Nations? Faut-il peut-être tout simplement l'annuler face à la propagation de l'épidémie Ebola? Vous nous appelez 33 9 693 693 70.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange.